Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de notre émission ce samedi, l'Amérique, au cœur de tous les combats. Combat pour la revendication des droits homosexuels pour commencer, puisque le 27 juin a été célébré le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, ainsi nommé d'après le nom du bar new-yorkais, où pour la première fois en 1969, la clientèle homosexuelle s'est insurgée contre les arrestations de la police. Une bataille de plusieurs jours qui sera la première pierre vers le changement de la législation en faveur du gay power. Combat également pour l'écologie, comme en témoigne le grand roman de l'écrivain américain Richard Powers, auteur du récit manifeste L'Arbre Monde, récompensé par le prix Pulitzer 2019, un livre érigé en exemple dans le nouveau numéro du magazine Books, un spécial été consacré à la forêt et nous, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais pour commencer, un autre combat, et non des moindres, celui contre le racisme inhérent aux États-Unis, comme nous le rappelle régulièrement la littérature américaine. Et parmi les auteurs qui se font la mémoire de cette violence raciale, notre invité aujourd'hui, Laird Hunt. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion du festival Le Marathon des mots, qui se déroule actuellement à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, et où cette 15e édition accueille un grand nombre d'écrivains américains, nous profitons de votre passage en France pour vous recevoir ici à RFI et parler donc de votre nouveau roman traduit en français sous le titre « La route de nuit » aux éditions Actes Sud. Un récit qui s'appuie sur un fait historique funeste, le lynchage de deux jeunes garçons noirs le 7 août 1930 dans l'Indiana. Une tragédie en arrière-plan de votre livre, car jamais la scène ne sera décrite, nous y reviendrons, et qui est abordée par le prisme de la fiction, puisque vous racontez cette journée à travers l'expérience de deux femmes, voire trois, sur le point de se rendre sur les lieux des meurtres. Mais avant d'entrer dans la fiction, un mot sur ce lynchage dont vous dites, Laird Hunt, que c'est en écoutant une émission de radio consacrée à ce triste événement que votre imagination s'est emparée du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre tête ?
Bon, c'était en 2010 et justement j'écoutais une émission de radio et ça semblait assez intéressant. Ça parlait des grands sujets de racisme, de l'histoire un peu perdue dans les États-Unis. Et puis j'ai entendu le nom de la ville dont il s'agissait et c'était Marion, Indiana, et c'est à moins d'une heure de la ferme familiale. Et ce qui était curieux pour moi, c'est qu'on n'avait jamais parlé de cet événement atroce. J'ai passé 6 ans de ma vie chez ma grand-mère, qui était une jeune femme en 1930, et étant donné le fait que 10 000 personnes sont allées voir ce qu'on appelait un spectacle, des meurtres de ces jeunes gens. Je trouvais ça vraiment bizarre qu'elle avait jamais parlé de cette nuit atroce. Et même à l'école, il n'y avait pas un seul mot sur cette histoire-là. Et je me suis dit, ouais, il faut peut-être en faire quelque chose.
Donc c'est la proximité d'abord géographique du lieu de cette tragédie, le silence familial qui ressemble peut-être à un tabou, qui met en route votre imagination, Laird Hunt. Et en même temps, vous venez de le dire, c'était en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Certes, il y a eu le temps de la traduction. Mais néanmoins, il semble qu'il vous ait fallu plusieurs années pour maturer ce sujet. Qu'est-ce qui a nécessité ce temps de réflexion et d'écriture ?
J'étais déjà dans quelques autres livres, en fait. Donc, il fallait attendre, mais je dis ça comme ça, un peu pour rire, mais c'est vrai que, avec un sujet comme le racisme, le lynchage, on peut pas y aller trop vite. Il faut prendre son temps. Il faut faire une démarche sérieuse. Il faut bien investiguer la chose. Il faut lire. J'ai visité la ville de Marion plusieurs fois pour vraiment connaître les endroits, les parages. Donc, c'était pas quelque chose que je pouvais faire tout de suite comme ça. Donc, je connaissais un peu Marion, Indiana, mais je ne connaissais pas ce Marion, Indiana-là.
Encore un instant sur le nom de cette ville, Marion. Je fais une parenthèse, c'est peut-être anecdotique ou peut-être pas en l'occurrence, mais vous avez changé le nom de la ville dans le roman, Laird Hunt. Nous ne sommes plus à Marion, Indiana, mais à Marvel, Indiana. Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas de l'histoire, c'est le roman. Et je voulais être bien clair que je ne parlais pas exactement de ce qui a passé vraiment dans l'actualité, dans l'histoire. C'était quelque chose un peu, je ne sais pas, je me suis trouvé dans une sorte de rêve un peu fiévreux quand j'écrivais. Et je me suis un peu éloigné des faits de cette nuit et je me suis dit, je ne peux pas garder le nom de la ville parce que ce n'est plus la ville. C'est plus Marion, ça est devenu quelque chose d'autre. Donc, je suis tombé sur le nom Marvel.
Et Marvel, rien à voir avec le label des super-héros au cinéma ?
Oh, j'aimais beaucoup les super-héros quand j'étais jeune, mais je me suis dit, après avoir trouvé ce nom, non, mais là, c'est les merveilles, en fait. Et c'est une nuit pleine d'atrocités, mais aussi, il y a de la beauté, il y a des merveilles, il y a toute une ville. Le paysage d'Indiana est assez enchanté, en fait. 1930, c'était des fermes, ça sentait bon, c'était plein d'individus intéressants et bizarres aussi. Donc, pour moi, c'est un paysage merveilleux, en fait.
En effet, il s'agit d'une vraie fiction, d'un vrai roman qui ne prend pas acte des faits précisément, ni des noms, ni des lieux. Mais on sent bien que c'est le point aveugle de tout ce roman, qui est construit essentiellement en deux parties, plus une troisième très courte. Mais d'abord, ces deux femmes, Ottilie et Calla Destry, que nous suivons l'une après l'autre dans leur voyage. Elles ne se connaissent pas, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas la même couleur de peau, mais c'est vrai que pour des raisons différentes, elles se rendent toutes les deux à Marvel, où doit se tenir le lynchage. Que représentent ces deux figures féminines pour vous, Laird Hunt ?
Ça a commencé avec Ottilie. J'ai écrit sa partie en premier. Et justement, c'était pendant cette émission qu'on a évoquée tout à l'heure, qui avait la voix d'une femme assez âgée. C'était pendant les années 80. On l'a enregistrée. Elle avait pris sa retraite et c'était quelqu'un qui a assisté à cet événement. Elle était très jeune à l'époque, en 1930. Et elle n'a pas dit « j'ai tellement honte de l'avoir fait ». Elle dit « oh, j'avais un peu trop de curiosité, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ». Mais en fait, son patron l'avait dit « il va y avoir un lynchage, on va aller voir, on y va ensemble ». Et elle a dit « oui, ok, d'accord ». Mais elle dit tout simplement, tout court, « j'avais un peu trop de curiosité ». Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Pas de honte, pas une réflexion là-dessus, c'était une toute petite chose. Et c'est avec cette femme-là que j'ai commencé la voix d'Ottilie. Ça a évolué de ce point de départ. J'ai écrit l'histoire, le trajet, cette nuit d'Ottilie, et le roman a resté comme ça pendant quelques années. Et c'était ok, c'était pas mal, mais je me suis dit non, il faut avoir quelqu'un d'autre dans cette histoire. On peut pas juste avoir quelqu'un qui assiste à l'atrocité. Il faut avoir quelqu'un qui veut quitter, qui veut fuir l'atrocité. Et donc, je suis tombé sur la voix de Calla Destry. Et c'est vrai que ce sont des deux femmes très différentes, mais une qui va aller assister au spectacle et puis l'autre qui va quitter la ville pour sa vie, en fait. Mais les deux trajets se touchent, se heurtent. Et ça m'a beaucoup intéressé, cette collision sur la route la nuit, une nuit d'une chaleur infernale.
Tout à l'heure, je disais qu'elle n'avait pas la même couleur de peau, mais je le disais par déduction, parce que vous, Laird Hunt, vous ne le dites jamais en ces termes. Vous employez à la place de noir, métis ou blanc les expressions telles que racine de maïs, fleur de maïs ou soie de maïs. Pourquoi ce détournement de la langue?
Comme tout le monde, chez moi aux États-Unis et j'imagine ici en France. J'ai lu tellement de livres, Faulkner par exemple, ce grand romancier qui était très important pour moi, qui emploie les mots, les termes raciaux typiques, et on les trouve parsemés partout dans ses livres et dans bon toute la littérature qui parle du racisme. Et moi, je voulais faire autre chose. Je me suis dit, oui, c'est vrai que pour nos oreilles, dans le 21e siècle, quand on entend ces mots, ça frappe vraiment. Ces mots font beaucoup de bruit sur la page. Et je me suis dit, pourquoi pas les changer pour mettre l'emphase sur les autres éléments du texte. Et je suis parti avec cette idée-là. Et ça m'a semblé assez intéressant de laisser... je ne sais pas, cet enjeu dans le texte. Je me suis dit au début, je vais peut-être les rechanger après, remettre les autres mots, mais c'était pas possible après. Et c'est très intéressant parce que avant la sortie du livre, quand les gens ont lu le texte, c'était juste avant les élections présidentielles aux États-Unis, l'élection où on a eu Donald Trump comme président, et tout le monde trouvait ça très intéressant. Oui, bon, on va mettre l'emphase ailleurs dans le texte. On peut voir les autres choses, on peut comprendre les autres choses. Mais une fois Donald Trump était élu président, on a perdu l'appétit pour des petits exercices comme ça, d'échanger des mots et tout ça. On trouvait ça inauthentique. Donc c'était très intéressant de voir le changement après novembre 2016.
Mais en même temps, un de ce que je trouve passionnant, c'est en effet cet exercice de style qui consiste à enlever les mots qui sont comme des étiquettes. Mais là, le paradoxe, c'est que l'enjeu est là même dans l'opposition et la haine que vous, les Blancs, à la population noire ou métisse. Donc, du coup, il y a un double mouvement que vous faites. Sur quel autre élément voulez-vous donc mettre l'emphase s'il ne s'agit plus de couleur de peau, alors que même on parle de lynchage?
Moi, je voulais vraiment mettre l'emphase sur la violence dans les actions, même dans le paysage qui était tellement antipathique pour les Noirs à cette époque-là. Il fallait rester dans sa ville, il fallait rester dans son coin. Et là, il y a une jeune femme qui va se balader une nuit
en voiture. Elle a 16 ans et elle est métisse et elle conduit une voiture. C'est très transgressif.
Oui.
C'est dire le besoin d'émancipation et de liberté qu'elle éprouve.
Et oui, et si à tous les 4-5 mots, on trouvait encore une épithète raciale et tout ça, ça aurait été vraiment un peu le brouillard qui ne permettrait pas de voir ce qui était vraiment l'essentiel dans cette nuit. C'était pas les mots, c'était les actions et les destinations.
Autre détour que vous faites, d'une certaine façon géographique, mais qui est aussi littéraire et politique, c'est que lors de ces deux périples, en voiture ou en chariot à un moment d'ailleurs, vous arrêtez, Laird Hunt, la narration de leur voyage, de ces deux femmes, avant qu'elles n'arrivent à Marvel, ou en tout cas avant la scène du lynchage, que vous n'écrivez donc jamais. C'est le nœud de l'histoire, mais c'est la grande image absente. Pourquoi ce choix ?
C'est une bonne question. En fait, cette scène existe, mais je l'ai laissée. Je voulais pas garder cette scène dans le livre. Il me semblait un peu, je ne sais pas. Pour moi, c'était un pas trop loin. Pour moi, en tant que quelqu'un qui n'était pas là, il y avait un décalage de 80 ans. Et je me suis dit, c'était pas juste. C'était pas, je l'avais pas saisi. Donc, il y a cette raison là. Mais il y a aussi le fait que, au moins aux États-Unis, l'image qu'on a prise, une photo qu'on a prise cette nuit de cet événement, ce lynchage.
Ces deux corps pendus à un arbre.
Oui. Oui, et puis il y a des blancs tout autour qui sourient et qui font la fête finalement. Donc on a tellement ça gravé dans la tête que si moi j'avais décrit ça, ça aurait été, je ne sais pas, un exercice de réduction de force. Et donc ça, c'était la raison plus importante. Je ne l'avais pas vraiment saisi, mais cette image est tellement forte et je me suis dit, ça va être le vortex qu'on tourne autour.
Southern trees then the sudden smell of burning flesh. Here is a...
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI. Avec la grande chanteuse Billie Holiday qui interprétait ici le titre Strange Fruit d'après le poème d'Abel Méropol, inspiré par l'insupportable lynchage de deux jeunes noirs en 1930. Histoire qui est aussi le moteur du nouveau roman traduit en français sous le titre La Route de Nuit aux éditions Actes Sud de notre invité Laird Hunt. En exergue de votre livre, on peut lire « Pour les milliers ». À qui faites-vous référence exactement?
Alors, entre 1870 et 1955, je pense, on a trouvé 4400 cas de lynchage aux États-Unis, dans le Sud, dans 18 États. Et donc, c'est pour ces milliers-là, des gens qui ont trouvé cette fin et cette injustice. Et ces milliers-là, et puis le fait que ça continue chez nous aux États-Unis, le fait qu'on tire sur les jeunes gens noirs, son tribunal, son justice, son prétexte presque, et ça continue. Et donc, il y a ça aussi dans ce mot « millier », je pense.
Vous voulez dire, Laird Hunt, que cet épisode de 1930 connaît aussi un écho aujourd'hui, dans l'Amérique des années presque 2020.
Ah oui, c'est de l'histoire inachevée, à mon avis. Ça continue, oui. C'est quelque chose qu'il faut faire face à ça. Tout le monde doit se mettre ensemble pour se battre contre la continuation de l'injustice raciale aux États-Unis.
Vous pensez que cette injustice, elle n'a pas cédé du terrain? Et que malgré les deux mandats du président Barack Obama, on est toujours dans cette violence raciale?
C'était un moment très très beau, la présidentie de Barack Obama, mais tout de suite ça a tourné pour le mal, je pense, tout de suite après. Donc c'est quelque chose qui continue chez nous, il faut vraiment être fort contre ça.
Après Never Home et Les Bonnes Gens, vos romans précédents. Ici aussi, le récit est raconté du point de vue des femmes. Pourquoi Laird Hunt?
Pendant je ne sais pas combien d'années, on a raconté des histoires de femmes. Je veux dire d'hommes, excusez-moi. Et maintenant, il faut changer. Je pense qu'il y a tellement d'histoires qu'on ne connaît pas encore qui ont les femmes au centre. Donc, il faut les trouver et les raconter, même si on n'est pas femme. Et puis aussi, pour moi, j'ai été élevé par cette grand-mère que j'ai évoquée tout à l'heure. Et c'était une femme assez petite, mais féroce, pleine de force, et qui parlait tout le temps, qui racontait des histoires. Et donc, j'ai la tête pleine d'histoires racontées par des femmes, des voix de femmes.
Je souscris totalement, évidemment, à votre point de vue, Laird Hunt, que les histoires de femmes n'ont sans doute pas été assez écrites. Et effectivement, dans ce roman que je citais à l'instant, Never Home, il s'agissait bien, pendant la guerre de sécession, d'un soldat qui, en fait, était une femme qui s'était travestie et qui se battait. Les Bonnes Gens aussi, c'était des femmes. D'ailleurs, la question de la couleur encore était très importante. Mais moi, ce qui me frappe dans ce livre, c'est que vos femmes, elles ne portent pas en elles une bonté spécifique qui serait liée à leur genre. Par exemple, Ottilie, on l'a déjà dit, elle s'amuse d'aller à un lynchage. Elle est avec son mari, elle est avec son patron, c'est une grande et belle femme rousse, on sent qu'il y a beaucoup de sensualité, mais elle n'a aucune conscience politique, elle n'a aucune intelligence humaine. Kali, elle, c'est autre chose parce qu'elle bouille de colère, elle a une espèce de rage en elle et elle a un revolver qui est caché dans son panier de pique-nique. Donc on sent qu'elle est prête à dézinguer la première personne qui la contrarie. Et puis, vous dites aussi, Laird Hunt, que dans la foule, par exemple, qui a lynché ces pauvres malheureux, il y avait une femme qui donnait des coups de pied dans la tête des victimes et elle avait un bébé dans les bras pendant qu'elle faisait ce geste. Donc, ce n'est pas pour utiliser des stéréotypes de douceur, de maternité, de tendresse que vous choisissez ces femmes.
Oh, pas du tout, pas du tout. Les femmes sont des êtres humains, tout court, c'est ça. C'est des êtres humains. Les êtres humains sont compliqués. Donc, moi, je vais pas passer des centaines, peut-être des milliers de pages sur des êtres humains qui sont simples. Pour moi, les femmes sont tout ce qu'il y a d'humain. Et donc, mes personnages aussi. Je suis entouré de femmes qui ont une complexité magnifique. Et donc, je vais pas écrire des femmes toutes simples. Comme ça, quand j'écris mes livres, c'est pas possible.
Donc c'est presque une démarche féministe, mais à rebours. Parler des femmes avec tous leurs défauts aussi.
Mais bien sûr, il faut le faire, c'est ça, exactement.
Au même titre que les hommes.
Oui, bien sûr, les hommes, oh là. Oh, les hommes.
Encore un mot pour parler d'un de vos personnages, parce que c'est vrai, on n'a pas encore eu le temps de le dire, mais pendant leurs deux périples qui vont finir par se croiser, l'une et l'autre font des rencontres assez étranges, parfois touchantes, choquantes. Et parmi ces personnages croisés, il y a Big Bob, qui est très intéressant. Et alors lui, par exemple, il fait une carte à la main. Et sur cette carte, il met par exemple le cimetière des fleurs de maïs pour qu'on n'oublie pas. Et il colle aussi des photos. Et Kala lui dit, mais ça sert à quoi les photos? Et surtout les photos de fleurs de maïs en particulier. Et il répond, à montrer qu'on sait, qu'on voit, qu'on est là. Fermez les guillemets. Est-ce qu'on peut en dire autant de la littérature, Laird Hunt?
Je l'espère, je l'espère. J'écris un peu pour ça. Pour voir, pour comprendre, pour essayer de comprendre. Bon, moi, dans mes livres, je suis un peu comme un grand maître à moi, surtout quand j'étais étudiant à la Sorbonne pendant les années 90. Montaigne, qui a une statue juste en face, je touche son pied chaque fois que je passe devant. Moi, quand je suis dans mes livres, je marche avec les droits devant moi, comme si je suis dans une chambre mal éclairée. Je vois peu. Mais il faut continuer, il faut marcher devant, il faut tâtonner, il faut tenter de comprendre, tenter de voir, tenter de témoigner.
Et ça passe par l'écriture. Est-ce qu'il y a un souci aussi peut-être de transmettre alors à vos enfants peut-être, ou en tout cas de nouvelles générations, ce que votre grand-mère n'a pas su vous transmettre, peut-être parce que les mots lui ont manqué, peut-être parce que l'époque ne s'y prêtait pas?
Oui, je trouve ça vraiment curieux. C'est parce que ma grand-mère était quelqu'un qui était, comme je disais, raconteuse, mais c'est vrai qu'elle racontait pas tout. Il y avait des secrets, des choses qu'elle gardait pour elle. Et je ne sais pas si ça, c'est un secret pour elle. Mais c'était de l'histoire qu'elle a jamais évoquée. Et c'est quelque chose que je ne sais pas. Je veux jamais parler pour quelqu'un. Je prends pas la parole pour les femmes, pour ma grand-mère, pour n'importe qui, mais je parle des gens, je parle de les histoires perdues. Je pense qu'il faut évoquer, il faut mettre de la lumière, éclairer un peu les choses obscures. Bon, si quelqu'un va apprendre quelque chose plus tard, c'est très bien, mais je le fais pas, c'est pas pour ça, parce que je veux pas être porte-parole pour l'histoire oubliée. Je veux justement signaler qu'il y a de l'histoire oubliée.
Et trouver un peu de lumière.
C'est ça.
La lumière au bout de cette route de nuit. Le soleil va finir par se lever peut-être.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Laird Hunt.
Non, c'est moi, merci.
Je rappelle le titre donc de ce nouveau roman, traduit aux éditions Actes Sud par Anne-Laure Tissu, sous le titre « La route de nuit ».
Littérature sans frontières, en partenariat avec le magazine Books.
Et avant de refermer cette dernière émission du mois de juin, je vous propose de faire un focus sur le nouveau numéro du magazine Books, notre partenaire, avec une édition spéciale été, juillet-août, intitulée « La forêt et nous ». Et parmi les nombreux articles consacrés à ce thème de la nature, un sujet littéraire qui revient sur le grand livre de Richard Powers, paru en français aux éditions Buchet-Chastel sous le titre « L'arbre-monde », lauréat du prix Pulitzer 2019. Un texte d'analyse signé Thierry Grillet qui nous rappelle les circonstances particulières de la jeunesse de ce roman. En effet, quand l'écrivain américain a réalisé que les séquoias californiens allaient tous être coupés à la tronçonneuse, sa vision du monde en a été fortement bousculée, particulièrement un jour d'exception, comme il le raconte en ces termes. « Je me promenais dans les montagnes de Californie sous de jeunes séquoias lorsque je suis tombé sur un très vieil arbre. Il était aussi large qu'une maison, aussi haut qu'un terrain de football et long, et aussi vieux que le roi Arthur. Quand j'ai appris qu'on continuait d'abattre des séquoias de ces proportions et de cet âge, cela a complètement bouleversé mon travail d'écrivain et ma vie. » Fermez les guillemets. Ainsi, à la suite de cet épisode, Richard Powers a-t-il décidé de s'installer en bordure d'une des dernières forêts primaires aux États-Unis, dans le Tennessee, non pas pour écrire sa propre expérience, mais pour écrire le roman des arbres. Une fiction qui met donc en scène 9 personnages, dont un gitan norvégien, une descendante chinoise, un vétéran du Vietnam, un jeune prodige indien tétraplégique ou encore une étudiante perdue. Toutes et tous ayant un lien privilégié avec un arbre en particulier, que ce soit un châtaignier, un mûrier, voire un banyan. Au cœur de ce petit groupe, une docteure en botanique, Patricia Westerford, alter ego ici de Richard Powers, qui comme sa protagoniste veut déchiffrer et traduire le langage de la forêt, puisque les arbres, on ne le conteste plus, communiquent entre eux. Ouvertement écologique, ce livre construit en plusieurs parties de racines à graines, soit du passé vers l'avenir, est autant un roman qu'un manifeste, en tout cas un appel pressant à une prise de conscience nécessaire au moment même où le président des États-Unis porte de graves coups à l'environnement, comme nous le rappelle l'auteur de l'article, et que Trump a décidé d'amputer de 85% le territoire du parc national dans l'Utah, pour, je cite, « redonner de l'espace aux industries minières et pétrolières ». Ce à quoi l'écrivain rétorque par le biais de la littérature, les hommes ne sont pas l'espèce suprême qu'ils croient être. Leur reste néanmoins la possibilité de peut-être réparer cette nature qu'ils détruisent, et pour commencer, de trouver l'inspiration dans la lecture de ce roman « L'arbre monde » de Richard Powers, décrypté donc par Thierry Grillet dans cet article à retrouver dans le magazine Books spécialité « La forêt et nous ». De mon côté, je vous donne rendez-vous tout l'été avec une série inédite sous le thème « Un pays, un auteur » avec au programme 15 voyages en compagnie de 15 écrivains qui nous emmèneront de l'Algérie au Québec en passant par l'Iran, le Japon, le Vietnam, mais aussi Israël. Bonne semaine et à vendredi prochain pour notre première destination, le Tchad.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.